Je vous préviens tout de suite, si il y a des athées parmi vous, sachez quand même que les miracles existent, au moins dans le monde de la finance. Non, parce que hier, les marchés ont fait ce qu'ils font mieux quand ils comprennent plus rien. Bah, ils ont décidé de repartir à la hausse. C'est simple, c'est efficace, et disons-le carrément, c'est franchement carrément suspect quand même. Fondamentalement, rien n'est réglé, on sort d'un cocktail indigeste, guerre, pétrole en feu, stress sur les taux, et ce petit parfum de panique qui flottait quand même au-dessus de nos terminaux en fin de semaine dernière. On était clairement en droit de craindre le pire, et puis, paf ! Lundi, ben, tout le monde s'est détendu. Alors pourquoi ce virage à 180 degrés ? Pourquoi est-ce qu'on est passé du « on va tous mourir » à « tiens, ben non, finalement, pas aujourd'hui ». Tout simplement, parce que le patron a parlé, et le patron, c'est le pétrole. Le baril a décidé de faire redescendre la pression d'un cran. On a vu un tanker franchir le détroit d'Ormuz sans se faire pilonner au lance-roquette, et d'un coup, c'est le soulagement général. Le pétrole a pris une claque monumentale, le WTI a perdu 5% pour revenir vers les 95$. Ça, c'était hier. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 17 mars 2026.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Alors si j'ai la veste ce matin, c'est parce que j'ai été vérifié à la station service en bas de chez moi. À 95$ le baril, le prix à la pompe n'a pas bougé d'un centime. Mais sur les marchés, par contre, l'effet placebo a fonctionné à merveille. Bon, après, entre vous et moi, le baril est déjà en train de remonter ce matin. Mais bon, voir le Brent revenir sur les 100$, ça a suffi à ressortir les bulls du bois. Les adeptes du buy the dip ont vu le S&P 500 s'appuyer sur la moyenne mobile des 200 jours. Et là, bam, les traders respiraient de nouveau à peu près normalement, comme si on venait d'ouvrir une fenêtre dans une pièce qui sentait vraiment le renfermer. Et là où le mot stagflation commençait à devenir un tout petit peu trop obsédant. Mais surtout, hier, il y a eu ce petit détail qui change tout, vous l'avez compris, c'est le détroit d'Ormuz, encore lui ! Oui, cette espèce de goulot d'étranglement dont on vous rebat les oreilles avec des infographies en 3D sur toutes les chaînes d'infos depuis 2 semaines. Et bien là, hier, surprise, les tankers passent, tranquillement. Sans explosion, sans drame, juste ils naviguent. Ça fait 2 semaines que les gardiens de la révolution menacent de couler tout ce qui bouge, sauf ce qui va en Chine, et là, pouf, au moment précis où Trump vient pleurer à la télé pour demander au reste du monde de venir l'aider, les navires circulent comme un dimanche après-midi sur l'autoroute. Alors forcément, du coup, le pétrole, il baisse. Même si on est encore pas loin des 95$ ce matin, et qu'entre nous, 95$, c'est pas si loin des 100, et que 100$, c'est toujours l'antichambre de la récession. Mais bon, le marché, lui, il a décidé d'être content, alors on va pas gâcher la fête. Ne cherchez donc pas plus loin, rien n'a changé, la guerre n'est pas finie, l'inflation reste un cauchemar et la croissance américaine merdouille sérieusement parce qu'on préfère tous un baril à 58 plutôt qu'à 95. On ne parle même plus des droits de douane ou de l'emploi qui part en vrille, pour l'instant tout ça n'est que de la littérature informative et tant que les tankers flottent, le reste n'intéresse plus personne. Et puis bien sûr, si vous ajoutez à ça l'Agence internationale de l'énergie qui promet d'ouvrir les valves en cas de problème, ben voilà, les investisseurs se disent que le scénario à la Mad Max avec la Ford Interceptor qui chasse le baril dans le désert, eh bien, c'est peut-être pas pour tout de suite. Résultat, les marchés sont repartis comme un vieux diesel qu'on croyait mort, mais qui redémarre quand même au quart de tour, même à plus de 2 balles le litre à la pompe. Le Nasdaq a repris 1%, le S&P suivait le mouvement, le Dow Jones aussi, et en Europe, on a fait pareil. Et comme nous vivons dans un monde absolument parfait, même les taux se calmaient. Le 10 ans américain est redescendu à 4,23, et ça, franchement, ça c'est crucial. Enfin, c'est important, surtout parce que ces dernières semaines, les vrais méchants de l'histoire, c'était quand même eux, même si on préférait garder les missiles plutôt que les rendements. Et là, miracle, eh bien, ils lèvent un tout petit peu le pied. Quand le coût de l'argent arrête de grimper, bah, les valos reprennent un petit peu d'air, ça respire mieux, c'est mécanique, c'est presque ennuyeux, mais c'est terriblement efficace. Alors bien sûr, derrière cette petite euphorie, on oublie un peu vite que la guerre est toujours là et que le pétrole peut repartir à la hausse à la moindre étincelle. Les banques centrales, elles, sont toujours le cul entre deux chaises, l'inflation qui brûle à gauche et le ralentissement qui gèle à droite. D'ailleurs, si on regarde sous le capot, c'est quand même vachement contrasté. Hier, il y avait des chiffres, la production industrielle, ça va, l'immobilier l'immobilier tente de survivre, mais alors le New York Empire State Manufacturing Index, il vient de se prendre une gamelle, mais monumentale. Donc si vous aviez encore un doute, non, c'est pas le grand boom économique. On est plutôt en mode, on s'accroche au mur et pourvu qu'il n'y ait pas trop de vent. De toute façon, comme la bourse vit dans l'anticipation, et là, ce qu'on anticipe, c'est que la situation sera moins pire que prévu, et en bourse moins pire, c'est déjà une raison suffisante pour vider le compte de la grand-mère et l'acheter tout ce qui bouge. Ajoutez à ça des deals à 50 milliards dans l'IA, des acquisitions massives dans les semi-conducteurs, et vous avez le cocktail parfait, un mélange de soulagement, d'espoir et d'un gros soupçon de déni. En résumé, pour faire très simple, hier, les marchés ont fait un truc très humain, ils ont choisi d'y croire. Croire que le pétrole va rester sage, croire qu'Hormuz ne va pas péter, croire que la Fed ne va pas faire de conneries et surtout croire que tout ira bien. Alors, ils en savent absolument rien, on est bien d'accord, hein. Personne ne sait rien, mais ça ne les empêche pas d'acheter. Et franchement, c'est peut-être ça le vrai moteur de la bourse depuis toujours. La capacité à ignorer le précipice tant qu'on a encore un peu de gaz dans le réservoir. Pendant que le reste du monde avait les yeux rivés sur le pétrole et les tankers, eh bien, il y avait un autre spectacle qui se jouait en parallèle. Ah, c'est un truc beaucoup plus calme en apparence, hein, mais infiniment plus explosif sur le long terme, c'était le GTC de Nvidia. Alors à la base, le GTC, ça veut dire GPU Technology Conference. Mais aujourd'hui, le nom est presque trompeur. On ne parle plus de cartes graphiques pour gamers boutonneux, c'est devenu un showcase technologique mondial et surtout une démonstration de puissance absolue. Hier, on a appris une chose capitale, Nvidia ne vend plus des puces, Nvidia vend des usines à intelligence. Le message est limpide, avant on achetait un composant, aujourd'hui on achète une AI Factory. Un data center entier pensé pour produire de l'intelligence comme on produisait de l'électricité au siècle dernier. On change de paradigme, l'IA n'est plus un outil, c'est une industrie lourde. Et au cœur de tout ça, il y a des machines toujours plus puissantes, toujours plus intégrées et surtout indispensables. Le message caché de Jensen Huang, c'est que si tu ne passes pas par Nvidia, bah tu risques bien d'être hors jeu. Point final. Ils sont même en train de préparer des data centers dans l'espace.
Téléphone maison.
Ce qui est fascinant, c'est que cette demande, qu'ils qualifient eux-mêmes d'incontrôlable, pas stable, pas en baisse, elle est incontrôlable. Les big tech, les états, les boîtes traditionnelles, tout le monde veut sa part du gâteau, de peur de disparaître plus tard. Regardez par exemple Meta. Mark Zuckerberg vient de signer un deal massif de plus de 27 milliards de dollars avec Nebius pour sécuriser de la puissance de calcul, tout en préparant en parallèle un plan social qui pourrait dégager 20% de ses effectifs. 20% sur 80 000 employés avec une intelligence qui, elle, n'est pas artificielle. Les mecs investissent des milliards et ils jettent 20% du staff à la rue. C'est la schizophrénie totale. On achète des cerveaux électroniques par milliard, mais on coupe dans l'humain à la hache. Pendant ce temps-là, Micron bétonne ses positions en rachetant des sites à Taïwan. Ils se préparent tous pour le tsunami de l'IA. Mais Nvidia va plus loin. Ils veulent pas juste vous vendre le hardware, ils veulent vous enfermer dans leur écosystème. CUDA, plateforme, IA, outil de simulation. C'est du Apple version industrie lourde. Une fois que t'es dedans, bah t'en sors. Et le plus vertigineux, l'IA sort des data centers. On parle de robotique, de voitures autonomes, de santé. L'IA devient donc une couche invisible partout pour tout le monde. Alors oui, les chiffres donnent le tournis. Nvidia devient l'étalon or technologique et les marchés adorent ça. Mais attention, quand tout le monde se rue sur la même histoire avec des centaines de milliards, ça finit tout souvent, pas dire toujours, mais souvent, pas ressembler à un film qu'on a déjà vu. C'est une révolution, oui, mais c'est aussi une jolie bulle quand même, qui gonfle à une vitesse supersonique. Et n'oubliez pas surtout, ce ne sont pas trois tankers qui passent le détroit d'Hormuz qui vont régler tous les problèmes du monde et ramener la tech en tête de gondole par magie. Ce que fait Nvidia est énorme, mais restez quand même lucide. Alors oui, oui, hier on est remonté parce que le pétrole a baissé et parce que les bateaux n'ont pas coulé, mais pendant que Wall Street se frotte les mains en regardant le Brent refluer, certains économistes recommencent et commencent à murmurer le mot en R comme récession. Chez Moody's, par exemple, on est passé à 49% de probabilité de récession. Et ils préviennent, on va bientôt passer au-dessus des 50. Et on parle de semaines, pas de mois. En traduction basique, on joue l'avenir de l'économie à pile ou face, et la pièce commence sérieusement à pencher du mauvais côté. Pourquoi ? Eh bien parce que 0,7% de croissance fin 2025, c'est pas une économie. C'est un coma profond du consommateur américain. Et l'histoire est têtue. Quand le pétrole s'emballe, la récession n'est jamais très loin. C'est une tradition, un grand classique. classique, comme les impôts ou les résolutions de début d'année qu'on tient jamais. Mais pendant que les économistes sortent les parapluies, les marchés, eux, montent tranquillement. Le S&P 500 ne perd que 2,6% sur le mois. Soit les marchés sont d'un optimisme divin, soit ils sont complètement à côté de la plaque. Et si on creuse, on comprend le délire, les analystes continuent de relever leurs prévisions de bénéfices. Oui, et oui, en pleine guerre, avec un baril instable et des taux au plafond, ils montent encore leurs attentes. Pour le marché, la logique est implacable. Si les bénéfices montent sur Excel, tout va bien. Et si tout va bien, bah on achète. On est dans une déconnexion totale. On dirait un peu ces gars qui dansaient sur le pont du Titanic en disant « T'inquiète pas, c'est juste une petite vibration, on a dû toucher une baleine. Puis de toute façon, le bateau est insubmersible. » Il y a des signaux qui clignotent. Hein. Les taux restent élevés, signe que la Fed ne viendra pas faire le pompier tout de suite, en tout cas pas demain soir. Et la VIX reste bien entendu extrêmement tendue. Derrière le sourire des indices, il y a de la sueur quand même. Mais pour l'instant, la bourse a choisi son camp, en tout cas hier, celui de l'optimisme ou du déni. C'est selon le sens où vous regardez le graphique. Toute la question est là, hein. Est-ce que les analystes ont raison et anticipent déjà le rebond, ou est-ce que tout le monde regarde ailleurs pendant que le moteur est en train de caler? La réponse est simple, personne n'en sait rien, mais tant que les bénéfices montent sur le papier, les indices feront semblant que tout va bien. Ce matin en Asie, on tente de remonter un peu dans le sillage des Américains, mais la douche froide est venue d'Australie ce matin. La banque centrale vient de monter ses taux. Tout ça parce que l'inflation causée par la guerre est un risque qu'ils ne veulent plus ignorer. Reste à espérer que Jerome Powell n'écoutait pas la radio australienne ce matin à la veille de son propre FOMC meeting, parce que ce serait dommage que ça lui donne des idées. Pendant ce temps, à l'heure où je vous parle, eh bien le baril reprend déjà 4%, parce que les experts commencent à douter sérieusement de la capacité des Américains à sécuriser le détroit d'Hormuz. Oui, ça passe pour l'instant, mais pour combien de temps? Les messages de l'administration Trump sont jugés mitigés sur la durée du conflit. Une chose est sûre, ça tire toujours sur Dubaï et Oman. Mais visiblement, les gardiens de la révolution ne sont pas tous morts, et le peuple iranien ne s'est pas encore soulevé comme Trump le voudrait ou l'espérerait. Pendant ce temps, bah, Trump cherche désespérément du soutien, mais tout le monde le laisse en plan. Friedrich Merz estime depuis Berlin que cette guerre ne regarde pas l'Allemagne. Macron, lui, organise son 22e conseil de défense, sans doute pour se persuader qu'il a encore un rôle à jouer sur l'échiquier mondial. Et en Suisse, le conseil fédéral a déclaré qu'il ne pouvait rien faire pour caper les prix des carburants. C'est comme pour les assurances maladie, ils peuvent jamais rien faire. Et puis c'est jamais de leur faute surtout. Pour l'instant, bah, les futurs sont en baisse de 0,5%. Retenez bien cette règle simple pour les deux prochains mois. Plus le pétrole remonte, plus les indices baissent et vice versa. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. En attendant, on s'abonne à la chaîne Swissquote en français, on like, on partage et on commente. Et puis, bien sûr, revenez demain parce qu'on se retrouve demain pour voir si le baril sera à 125 ou à 47. Allez, passez une excellente journée. À demain. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.